Nous évoquions l'espace médiatique il y a quelques instants à propos de Marion Maréchal. Vous vous y intéressez aussi, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est votre journal des idées. Et alors que les espaces de discussion se sont multipliés sur les plateaux de télévision, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, eh bien, le débat serein, argumenté et constructif se fait rare.
Oui Clara, il semble loin le temps où l'on pouvait dire, comme Joseph Joubert, il vaut mieux débattre d'une question sans la régler que la régler sans en avoir débattu. Le secrétaire de Diderot et ami de Chateaubriand nous livre peut-être l'une des clés de la brutalisation contemporaine de la controverse. On sortait des anciennes écoles avec une ignorance qui se connaissait et un savoir qui s'ignorait. Aujourd'hui, on pourrait dire le contraire presque. Moins on en sait, plus on s'y croit. Peut-on encore débattre? C'est le sujet de l'hebdomadaire Le 1. Robert Soler rappelle à bon escient l'histoire du mot débattre qui signifiait à l'origine battre fortement. On débattait le lait pour en extraire le beurre. En somme, une dispute bien menée peut séparer le bon grain de l'ivraie. Autre leçon paradoxale, délivrée par l'usage des mots, battre la langue signifiait jadis parler pour ne rien dire. On ne saurait mieux désigner tant de débats alimentés sur les plateaux télé par la vacuité volubile de ceux qui s'autorisent de l'autorité conférée par le statut de communicant, d'éditorialiste, de toutologue. Les réseaux sociaux présentent un autre cas de figure. Romain Badoir rappelle l'espoir suscité par ces agoras inclusives où chacun pouvait prendre la parole et où la liberté d'expression de tous toutes et tous étaient respectés. Il parle d'intelligence collective, d'une émancipation citoyenne par rapport aux élites. Un vieux rêve désormais, alors que pour rentabiliser notre temps de cerveau disponible et faire passer la pub, les algorithmes nous servent des contenus qui s'accordent à notre profil virtuel et offrent une prime à la visibilité de ceux aguicheurs, simplistes ou radicaux, plus à même de capter notre attention. Le spécialiste des médias, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 2 signale une forme de concentration sur un nombre très limité de plateformes, Facebook, YouTube ou Twitter, qu'analyse à L3 une part importante du débat en ligne. Or, leur design a tendance à formater les prises de parole. La limite des 280 signes de Twitter pousse à la simplification et à la décontextualisation des messages, d'où le recours immodéré aux arrobases ou aux hashtags qui incitent à la guerre de tranchées, aux pratiques d'humiliation collective, tout le contraire du débat argumenté. Résultat, c'est la posture de l'indignation qui domine, même si elle tente à répandre l'idée que toutes les causes se valent et que la rupture de stock d'un produit en supermarché mérite autant d'attention que la situation des migrants en Méditerranée. Cette économie de l'attention sur les réseaux sociaux encourage aussi une forme d'engagement paresseux, en flattant notre narcissisme. Arthur Schopenhauer ne disait pas autre chose dans l'art d'avoir toujours raison. Je cite, « La vanité innée, particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas accepter que notre affirmation se révèle fausse, ni que celle de l'adversaire soit juste. » Et dès qu'on s'aperçoit que l'adversaire est supérieur, il faut, dit-il, quitter l'objet de la querelle pour l'attaquer d'une manière ou d'une autre dans ce qu'il est. Insulte, attaque personnelle, que restera-t-il aujourd'hui de ces vaines disputes dans la mémoire d'Internet? Pierre-Henri Tavoyot rappelle la pratique médiévale de la disputatio en Sorbonne, une joute oratoire lors de laquelle chaque candidat devait défendre une thèse imposée. Cet exercice forçait à trouver de bonnes raison de plaider à rebours de ses idées. Cela n'obligeait pas à en changer, mais permettait de penser à la place d'autrui et de pouvoir ensuite mieux le convaincre. Si leurs adversaires n'avaient pas abondamment cité des philosophes antiques comme Héraclite, Diogène le Cynique ou les iconoclastes, nous ne saurions pas grand-chose d'eux aujourd'hui. La radicalisation des positions est aussi un élément déterminant de la difficulté à débattre, dans la mesure notamment où la radicalité se définit d'abord par un type de discours mettant en œuvre les formes de la montée en tension pour provoquer, susciter l'attention. C'est l'objet de la dernière livraison de la revue Mots, les langages du politique, le discours des radicalités politiques et sociales. Le langage des affects, souffrance, indignation, colère est souvent le registre mobilisé, ce qui ne laisse guère de place au débat rationnel. Car là, nous sortons du périmètre propre au débat. La radicalité, je cite, qu'elle soit revendiquée ou stigmatisée, qu'elle exige un retour aux origines ou annonce des temps nouveaux, n'est qu'une des manières de dire la conflictualité au cœur du politique.